Je passe tout de suite la parole à Gaëlle Marty pour la neutralité de la Cour de justice de l'Union européenne.
Alors, merci François. Je voulais remercier aussi rapidement pour l'accueil chaleureux qui donne l'occasion de revoir les camarades de la promotion 2014 et puis aussi les membres du jury dans un contexte un peu plus détendu. Alors, la neutralité du juge a souvent été envisagée, on en a pas mal parlé, hein, comme synonyme d'impartialité, c'est-à-dire comme absence de parti pris, absence de préjugés. Et dans cette configuration-là, elle est censée supposer une indépendance du juge, c'est-à-dire garantir le fait qu'il ne soit soumis à aucune pression extérieure, qu'elle provienne des autres pouvoirs publics ou des partis. Alors, la transposition de ces questionnements à la Cour de justice de l'Union européenne est un petit peu problématique, hein, puisque la Cour de justice, cette juridiction, possède des identités multiples. C'est à la fois un juge interétatique, un juge des conflits entre les institutions de l'Union européenne, ça peut être un juge administratif, un juge constitutionnel ou encore un juge commercial. Donc la neutralité de cette juridiction dépend du type de recours dont la Cour est saisie, type de recours qui conditionne la nature des parties, et donc prédétermine le type de pression dont il conviendrait de la protéger. Et donc il faudrait analyser chaque type de recours pour résoudre la question de sa neutralité. Alors l'angle d'approche que je vais privilégier ici part non pas de la neutralité entendue comme synonyme d'impartialité, mais comme impliquant, c'est une définition qu'en donnent plusieurs dictionnaires, comme impliquant une position intermédiaire entre les thèses en présence, c'est-à-dire la neutralité comme requérant une absence d'intérêt à la solution du litige, comme impliquant le juge, comme faisant du juge quelqu'un de détaché par rapport à la décision rendue. Alors, cette signification de la neutralité prend tout son sens si l'on s'intéresse à l'une des fonctions de la Cour de justice de l'Union européenne, et je me limiterai à celle-ci, qui est celle de juge répartiteur des compétences entre les deux niveaux de pouvoir que constituent l'Union européenne et les États membres. La Cour de justice peut en effet être envisagée comme le juge d'un ensemble fédéral, étant entendu que le terme fédéral ici ne fait pas référence à l'État fédéral, mais fait référence plus généralement à un processus qui vise à englober les États dans un ensemble plus large, sans pour autant les faire disparaître en tant qu'entité indépendante. Et comme tout ensemble fédéral, l'Union européenne est à la recherche d'un point d'équilibre entre la consolidation et la désunion, ce qui rend indispensable l'exigence d'un tiers neutre et impartial qui doit arbitrer entre les prétentions opposées des différents niveaux de pouvoir. Alors, si on voit le sujet sous cet angle, l'appréciation portée sur la neutralité de la Cour de justice est pour le moins ambivalente. En effet, les traités et le statut de la Cour s'efforcent d'assurer son indépendance pour garantir sa neutralité à l'égard notamment des États. Toutefois, l'examen de sa jurisprudence montre l'existence d'un tropisme européaniste fort, même s'il a été quelque peu tempéré ces dernières années par la prise en compte du fait étatique et de l'importance des États. Et donc ce sont les deux points que je vais examiner, c'est-à-dire l'indépendance de la Cour en tant que condition supposée de sa neutralité, et puis j'aborderai dans un second temps sa fonction intégratrice comme révélant son absence de neutralité, ou en tout cas ses insuffisances en la matière. Et cela m'amènera, dans un troisième temps ou en guise de conclusion, à formuler des propositions pour assurer une neutralité plus effective de la Cour, qui serait essentielle à sa fonction de juge répartiteur des compétences. Donc l'indépendance comme condition supposée de la neutralité de la Cour, ce sera mon premier point. Alors, comme je l'ai dit, l'exigence de neutralité de la Cour de justice devrait se traduire par son indépendance à l'égard des États et des institutions de l'Union européenne, afin de garantir son objectivité dans les litiges qui mettent en cause la répartition des compétences entre les États membres et l'Union européenne. Alors cette condition semble être remplie à l'égard des institutions de l'Union européenne, dès lors que la Cour ne dépend d'aucune d'entre elles en ce qui concerne sa nomination ou son fonctionnement. Contrairement à ce qui avait pu être proposé à plusieurs reprises par le Parlement européen notamment, qui aimerait pouvoir nommer justement les membres de cette juridiction. La Cour de justice est en quelque sorte indépendante des autres pouvoirs publics de l'Union européenne, et donc indépendante des partis lorsque ces institutions ont le statut de requérant ou de défendeur. Alors bien entendu, la question de l'indépendance de la Cour à l'égard des États est plus complexe, dès lors que ce sont les États qui sont chargés de nommer les juges, dont le nombre est égal d'ailleurs au nombre d'États, Ils sont chargés de nommer ces juges d'un commun accord, la pratique voulant en fait que chaque État entérine le choix discrétionnaire des autres États. Alors le traité de Lisbonne apporte une légère amélioration à ce système puisqu'il prévoit l'intervention d'un comité indépendant qui est chargé de donner son avis sur les candidats, mais sans toutefois remettre en cause la liberté des États de désigner leurs juges. Cette emprise des États sur les juges est d'ailleurs renforcée par la durée du mandat, qui est assez courte et surtout qui est renouvelable, ce qui peut laisser planer un doute sur l'indépendance des juges, notamment lorsqu'ils souhaitent aller au-delà de leur mandat unique. Et on peut évoquer le cas du juge allemand Manfred Zuleg, dont le mandat n'a pas été renouvelé en 1994, alors que la jurisprudence de la Cour en matière de sécurité sociale des travailleurs avait été fortement critiquée par le chancelier allemand de l'époque, Helmut Kohl. Alors, si l'indépendance des juges n'est pas optimale au stade de leur nomination, elle est assurée, en revanche, une fois les juges nommés, par le statut des juges et aussi par les règles qui gouvernent le fonctionnement de la Cour. Alors, s'agissant du statut des juges, je citerai rapidement les points qui me semblent importants. Leur inamovibilité, tout d'abord, qui ne peut être levée que par leur pair. On peut citer également l'immunité de juridiction, qui protège les juges de toute action civile et pénale pendant toute la durée de leur mandat. Cette immunité ne pouvant également être levée que par l'Assemblée plénière de la Cour. On peut citer également les incompatibilités qui sont prévues par le statut et qui interdisent le cumul de métiers ou de fonctions qui pourraient nuire à l'indépendance du juge. Et ce régime d'incompatibilité est également complété par un devoir général de réserve qui se traduit lors de la prestation de serment. Alors, s'agissant des règles qui gouvernent le fonctionnement de la Cour cette fois, on peut mentionner le principe de collégialité, qui, avec le secret des délibérations et avec l'absence d'opinion séparée, permet normalement de mettre les juges à l'abri de toute mise en cause personnelle. La collégialité permettrait également d'atténuer la part d'influence de chaque juge et donc de minimiser les risques de parti pris. Toujours s'agissant des règles qui gouvernent le fonctionnement de la Cour, on peut noter une pratique qui concerne la répartition des affaires entre les formations de jugement. Alors cette répartition des affaires n'obéit à aucune règle, mais en pratique, de manière officieuse, on essaye d'éviter qu'un juge qui est ressortissant d'un État soit présent dans la formation de jugement qui est appelée à statuer, que ce soit dans le cadre du renvoi préjudiciel ou a fortiori dans le cadre du recours en manquement. Enfin, l'article 18 du statut de la Cour de justice organise un devoir de déport des juges lorsque l'un des juges est soupçonné d'avoir soit des liens trop étroits avec l'une des parties, soit des intérêts personnels à la solution du litige, ou lorsqu'il a pu être amené à préjuger de l'affaire à l'occasion de fonctions antérieures. Et si le juge ne le fait pas spontanément, eh bien, le déport peut être demandé par le président de la Cour ou par les parties, la Cour statuant sur la question en cas de litige. Alors, il découle de cet examen rapide que la préoccupation principale des rédacteurs des traités, a été d'assurer l'indépendance de la Cour de justice à l'égard des États, dans le but certainement de compenser en quelque sorte le péché originel de leur nomination. Alors, cette stratégie semble avoir plutôt bien réussi au vu de la jurisprudence de la Cour qui est très intégratrice et qui tend à démontrer que les juges, une fois nommés, ne se considèrent pas du tout comme les représentants de leur État, ni a fortiori comme les défenseurs de l'intérêt des États au détriment de ceux de l'Union. Et on peut dire même que le constat est inverse, puisque la Cour de justice de l'Union européenne semble favoriser quasi systématiquement les intérêts de l'Union, au lieu d'adopter une posture neutre, en tout cas une posture que l'on pourrait attendre de la part d'un juge répartiteur des compétences dans un ensemble fédéral. Donc ce sera mon deuxième point. Je vais envisager c'est la fonction intégratrice de la Cour comme révélant son insuffisante neutralité. Alors tout d'abord une précision, quand je parle de fonction intégratrice ici, je fais référence au fait que la Cour de justice a contribué par des méthodes d'interprétation très extensives à faire de l'ordre juridique de l'Union européenne un ordre juridique autonome, dont les normes s'appliquent immédiatement dans les ordres juridiques internes, où elles s'intègrent avec rang de priorité et où elles engendrent des droits pour les particuliers, dont les particuliers peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. Alors, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation de l'ordre juridique de l'Union européenne, et ce mouvement s'est doublé d'un mouvement de constitutionnalisation, également du fait de l'activité de la Cour de justice, constitutionnalisation de cet ordre juridique. Constitutionnalisation matérielle, tout d'abord, puisque la Cour de justice a comblé la lacune des traités en protégeant les droits fondamentaux. Elle a également renforcé la place du principe démocratique en accroissant les pouvoirs du Parlement européen, en développant un statut de citoyen européen. Constitutionnalisation formelle aussi des traités, puisque la Cour a consacré l'exclusivité des procédures de révision des traités et que plus généralement, elle s'efforce de faire des traités la norme suprême au sein de l'ordre juridique européen à travers toutes les voies de recours dont elle dispose. La Cour s'est aussi attachée à favoriser l'extension des compétences de l'Union européenne par la théorie des compétences implicites ou encore par le biais du principe de coopération loyale qui s'impose aux États, même dans le champ de leurs compétences retenues et qui implique qu'ils ne portent pas atteinte à la réalisation des buts qui sont fixés par les traités. La Cour semble donc avoir favorisé de manière quasi systématique l'intégration juridique et l'intégration politique de l'Union européenne au détriment des États, ceci étant conduit à insérer dans les traités certains garde-fous. Alors, je vais juste en citer quelques-uns. On peut citer le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité. On peut citer également la clause de respect de l'identité nationale des États, qui figure à l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne à l'heure actuelle. Et puis, bien entendu, ils ont inséré dans le traité de Lisbonne le droit de retrait dont le Royaume-Uni a fait usage en juin dernier. De plus, les juridictions nationales, notamment les juridictions constitutionnelles, ont réagi en érigeant progressivement des réserves de constitutionnalité afin de protéger soit le noyau dur de leur constitution, ce qu'on appelle le contrôle d'identité constitutionnelle, ou alors, plus récemment, elles ont essayé de se prémunir contre un éventuel dépassement des compétences de l'Union européenne par le contrôle de l'ultra-vires, qui a été notamment affirmé par la Cour fédérale allemande. Consciente de la nécessité d'assurer l'acceptabilité de ces décisions par les États, qui restent les maîtres des traités, la Cour a pris en compte ces inquiétudes dans une certaine mesure. Certains de ces arrêts ont pu être lus comme une relativisation du principe de primauté, notamment, un exemple parmi d'autres, l'arrêt Melki, par lequel la Cour de justice admet la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de la QPC française, au profit d'une interprétation conciliatrice de ce mécanisme. Dans l'affaire Melki, la Cour de justice a semblé donner une importance accrue au dialogue des juges et récuser une lecture hiérarchique des rapports de système au profit d'une vision plus respectueuse de la diversité des États. On peut citer également les arrêts par lesquels la Cour a accepté l'invocation par les États de motifs tenant à leur identité nationale pour leur permettre de déroger aux règles fondamentales des traités. Par exemple, dans l'arrêt René Wigwardine, la Cour de justice admet l'invocation de l'identité linguistique. Elle admet également l'invocation de l'identité constitutionnelle de l'État dans l'arrêt Sayn-Wittgenstein. Ces deux arrêts étant rendus au visa de l'article 4, paragraphe 2, justement, qui vise à protéger l'identité nationale des États. Enfin, on peut également citer un autre exemple. Dans le contexte de la crise économique qui est marquée par le souci des États de préserver l'équilibre de leurs finances publiques, la Cour a adopté une lecture plus stricte de la directive de 2004, la directive qui est relative au statut de citoyen de l'Union européenne, pour autoriser les États à exclure les citoyens de l'Union européenne du bénéfice de certaines prestations sociales pendant les 3 premiers mois de leur séjour. Et il y a des arrêts 2014, l'arrêt Dano, qui a été réitéré en 2015 et 2016 sur ce sujet. Alors, en dépit de ces jurisprudences plus pacificatrices, la Cour ne s'est pas totalement départie de son prisme intégratif avec lequel elle appréhende les questions qui lui sont soumises. Alors, je vais citer par exemple l'arrêt Meloni, l'arrêt dans lequel la Cour a réitéré de manière particulièrement stricte le principe de primauté pour s'opposer à ce que l'Espagne puisse appliquer un standard de protection des droits fondamentaux plus élevé, celui qui était garanti par sa Constitution, un standard de protection des droits fondamentaux plus élevé que celui qui découle de la Charte, pour s'opposer à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Et c'est d'ailleurs sur le fondement de cette lecture orientée de la Charte des droits fondamentaux que la Cour a également justifier l'incompatibilité du projet d'adhésion à la CEDH dans son avis 2013 sur justement sur le projet d'adhésion. Et donc dans cet avis, la Cour a noté que le projet d'adhésion à la CEDH ne préservait pas suffisamment la spécificité et l'autonomie du droit de l'Union, et c'est la raison pour laquelle elle a émis un avis négatif à l'adhésion. Alors un dernier exemple qui témoigne de cette attitude engagée de la Cour, c'est sa jurisprudence à l'égard des juridictions nationales, celle qui se montrerait surtout rétive à appliquer sa jurisprudence. Alors la Cour, en effet, n'adopte pas toujours une attitude conciliatrice à leur égard, puisqu'elle a successivement posé le principe de la responsabilité de l'État du fait d'une violation du droit de l'Union imputable à l'une de ses juridictions. C'est dans un arrêt Koebler, et elle a également admis l'hypothèse d'un manquement judiciaire, c'est-à-dire la possibilité de condamner l'État en manquement du fait de l'activité de l'une de ses juridictions. Donc toutes ces solutions jurisprudentielles que j'ai rappelées brièvement montrent que la Cour a une conception finalisée de sa fonction. Elle considère qu'elle doit contribuer à son niveau à la réalisation d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Alors certes, cette attitude pouvait se comprendre au début de la construction européenne, lorsqu'il s'agissait de développer l'intégration et que l'existence des États n'était pas menacée par les communautés européennes naissantes. Cette attitude semble peut-être moins légitime à l'heure actuelle, alors que les compétences de l'Union européenne sont développées jusqu'à englober des domaines régaliens et que la primauté et l'effet direct du droit de l'Union sont globalement acceptés et respectés par tous les États. Et donc c'est ce constat d'une fonction intégratrice de la Cour qui conduit à s'interroger sur les pistes qui permettraient peut-être d'assurer une neutralité plus effective de la Cour. Donc j'en viens à ce dernier point sur les pistes envisageables. Et l'une des pistes qui a fait l'objet de plusieurs propositions en doctrine ou par certains acteurs politiques consiste en la création d'un tribunal constitutionnel européen qui aurait la charge exclusive de régler les conflits de compétences entre l'Union européenne et les États membres. Une telle juridiction devrait, selon ses promoteurs, être séparée à la fois des États et à la fois de l'Union européenne, le but étant de garantir la neutralité du tiers répartiteur des compétences afin qu'il ne soit institutionnellement lié à aucun des deux niveaux de pouvoir entre lesquels il devrait arbitrer. Alors on est ici dans une conception tripartite du fédéralisme, entendue comme étant composée de deux nouveaux gouvernements placés sur un pied d'égalité, les États et l'Union européenne, l'ensemble étant chapeauté par un tiers ordre qui aurait pour seule fonction de répartir les compétences. S'agissant de sa composition, les partisans de cette proposition ont suggéré que ce tribunal soit composé à part égale de juges nommés par la Cour de justice de l'Union européenne et de juges constitutionnels nationaux sur le modèle du tribunal des conflits français. Alors cette proposition, qui a pu sembler séduisante pour certains, trouve ses limites dans le rôle qui est assigné à cette juridiction, puisqu'elle serait chargée de conflits, elle ne serait que chargée des conflits mettant en cause la répartition verticale des compétences entre l'Union européenne et les États membres. Or, on peut opposer le fait que la plupart des arrêts par lesquels la Cour de justice a modifié l'équilibre de la construction européenne ne concernaient pas directement ces questions. Et on peut citer par exemple les arrêts sur le statut de citoyen européen, qui ont contribué à inclure dans le droit de l'Union européenne des pans entiers du droit de la famille, par exemple, de sorte que, dans une telle configuration, l'existence d'un juge exclusivement consacré à la répartition des compétences n'aurait pas réellement changé la donne. Alors l'autre piste que je vous propose ici consiste non pas à changer la nature de la Cour de justice de l'Union européenne, mais en quelque sorte à poser autrement le problème de sa neutralité. L'idée est de démontrer que dans un espace pluraliste, tel que l'Union européenne, la fonction juridictionnelle ne peut plus être considérée comme relevant de la seule responsabilité de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle incombe en effet à l'ensemble formé par la juridiction européenne d'une part et par les juridictions nationales, notamment les juridictions constitutionnelles, qui peuvent aussi être amenées à se prononcer sur la répartition des compétences entre l'Union européenne et leur État. C'est donc cette juridiction européenne composite qui a la responsabilité commune d'interpréter et d'assurer la garantie de la Constitution européenne, Constitution européenne qui elle-même est composée de plusieurs niveaux constitutionnels. Or, le fait que la Cour de justice de l'Union et les juridictions nationales soient placées sur un pied d'égalité, puisqu'il n'y a pas de relation hiérarchique entre elles. Le fait qu'elle n'ait pas adopté une même lecture du principe de primauté, surtout, elle n'ait pas adopté la même lecture du fondement du principe de primauté. Le fait que chacune d'entre elles revendique le pouvoir de dernier mot sans avoir les pouvoirs d'imposer sa lecture aux autres cours, aux autres juridictions, eh bien, toutes ces caractéristiques constituent peut-être à l'heure actuelle la meilleure garantie de la préservation de l'équilibre entre la poursuite de l'intégration et le maintien de l'existence des États. Autrement dit, puisque la revendication concurrente de souveraineté juridique est la manifestation même du pluralisme européen, je cite ici les conclusions de l'avocat général Poyares Maduro dans l'affaire Arcelor, eh bien, les juges des ordres juridiques qui composent cet espace pluraliste ne sont par définition pas neutres, dans le sens où chaque juge s'applique à défendre sa propre exigence existentielle, c'est-à-dire la défense de l'identité constitutionnelle pour les États et la défense de la primauté par la Cour de justice de l'Union européenne. Et j'ai bien aimé le terme que François a utilisé tout à l'heure quand il a parlé de la neutralité comme esquive du conflit dans l'Union européenne. L'esquive du conflit ne fonctionne pas. Chacune affirme une propre défense de sa propre lecture du principe de primauté. Et dans la mesure où ces conflits ne peuvent pas être réglés par la voie hiérarchique, la seule solution est dialogique, la neutralité étant par conséquent davantage la résultante du dialogue des juges plutôt que la condition préalable à l'exercice de la fonction juridictionnelle dans l'Union européenne. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Par souci de neutralité, le terme d'esquive du conflit, c'est dans Roland Barthes. Hein. C'est dans son cours. Le dialogue comme garantie de la neutralité, le dialogue ou la cacophonie peut-être comme garantie de la neutralité, c'est effectivement... On retrouve des questions constitutionnelles. Comment écraser les pouvoirs pour éviter qu'ils ne se développent trop.